Bête de course, monstre de puissance, piège à carte bleue, les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces ont fait sensation lundi soir. Entre leurs caractéristiques, celles des deux nouveaux processeurs Apple et leur prix, on s'est décroché la mâchoire. Dans un instant, récapitulatif complet des caractéristiques et promesse des deux nouveaux portables de compète d'Apple dont les premiers exemplaires doivent arriver mardi. À J+3, place au recul et aux têtes froides, tout ce qu'Apple n'a pas dit, faute d'envie ou de temps lundi soir, tout ce que vous n'avez pas appris lors de la keynote Unleashed est dans A-Week ce soir, et certaines surprises ne sont pas à la hauteur de ces nouveaux MacBook Pro. Apple qui a créé la surprise avec un abonnement Apple Music deux fois moins cher, 5 euros au lieu de 10 à certaines conditions. On va revenir sur ce nouveau service 100% Siri dépendant et sur cette nouvelle stratégie qui s'appuie non seulement sur les AirPods 3, mais aussi sur les HomePod mini de couleur dévoilés lundi soir. iWeek, la semaine Apple, le podcast, saison 2, épisode 61. C'est le 9e rendez-vous de cette saison 2. Je m'appelle Benjamin Vincent et je suis très heureux de vous accueillir en ce jeudi soir. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans le podcast de référence sur l'actu de l'écosystème Apple, un épisode spécial débrief de la keynote de lundi soir, l'Apple Event Unleashed, le deuxième depuis la rentrée. Je salue la team presque au complet ce soir. Salut Ellie.
Bonsoir Benjamin, bonsoir l'équipe et bonsoir à toutes et à tous.
Salut François.
Salut Benjamin, salut à tous, très heureux de vous retrouver à 3 jours après la keynote et on a plein de choses à vous raconter. On a découvert toutes les, vous savez, les petites astérix avec les petites étoiles, avec les conditions générales d'utilisation qui sont tout en bas ou tout petit, ben on en a trouvé pas mal.
Tant mieux, ça nous fait un beau programme. Et salut Gilles.
Salut Françoise, Benjamin, Ellie et les autres, très heureux de vous retrouver.
iWeekLSA, c'est le hashtag pour échanger avec nous sur Twitter tout au long de la semaine. Suivez-nous at iWeekNews. Abonnez-vous à iWeek, la semaine Apple, le podcast, sur toutes les plateformes dont Apple Podcast. Profitez-en pour nous mettre une note 5 étoiles, ce serait super sympa. Et pour déposer un avis, vous savez, quelques mots bien à vous qui donneront envie à d'autres, c'est super important. Nous soutenir, c'est sur Patreon que ça se passe, à l'adresse patreon.com/iWeek. On a besoin de vous et ça ne représente pas plus d'un café par épisode. Un café à Paris, je précise. Enfin, si vous aimez iWeek, vous aimerez i5 exclusivement sur Apple Podcast. i5, c'est le premier podcast quotidien sur l'actualité Apple. 5 infos, 5 minutes par jour, 5 jours par semaine, avant midi pour 3,99€ par mois. Oui, ça fait moins d'€1 par semaine pour l'essentiel de l'info Apple dans vos oreilles tous les jours. Essayez i5, vous avez 3 jours totalement gratuits et ensuite c'est sans aucun engagement. Allez, dans un instant, le débrief intégral de la keynote de lundi et tout ce qu'Apple ne vous a pas dit. Ça a commencé comme ça.
Welcome back to Apple Park for our second event in just over a month. At Apple, we are focused on creating innovative products and experiences. Products that offer our users new ways to express their creativity and to enjoy the creativity of others. So today, we're focusing on two important areas, music and the Mac.
Séquence nostalgie en ouverture de cette keynote, les amis. Il faut dire que bon, c'était l'un des anniversaires en filigrane, mais on fêtait le 30e anniversaire du lancement du premier PowerBook cette semaine, Ellie.
Mais oui, a priori, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est vrai. Et de temps en temps, au départ, on disait qu'Apple ne revenait jamais vers son histoire. Et bien là, ils nous ont contredit et ils sont repartis assez loin, pour une fois.
Voilà, ça commençait avec un iMac...
Bondi Blue.
Berlingo, hein ? Le Bondi Blue, ouais, Gilles.
C'est ça, le premier des premiers, en fait. Celui avec la couleur qui avait été spécialement créée pour Johnny Ive à l'époque.
Alors, on va revenir tout à l'heure sur les annonces liées à l'audio et à la musique. C'est par ces annonces qu'Apple a commencé cette keynote. Ça nous a un petit peu surpris. Hein. On misait plutôt sur un démarrage autour de Monterey, par exemple, pour arriver progressivement sur le cœur, le clou du spectacle. Mais on va donc commencer par le gros morceau, ces deux très beaux bébés que sont les deux nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. D'abord, je me tourne vers vous parce que c'est vrai que lundi soir, on a suivi la keynote, mais sans forcément pouvoir l'apprécier dans ses subtilités. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la re-regarder, les amis ?
Absolument, en intégralité.
Ouais, Ellie, alors, quelle impression tu as eue à la deuxième écoute et au deuxième visionnage ?
Ben, d'abord, on avait un peu plus le temps, on n'était pas dans le feu du direct. J'étais confortablement assis devant la grande télé et tout, donc c'était bien. Donc on a pu voir les détails de la réalisation qui étaient magnifiques comme d'habitude. Il y a des petites choses, par exemple, on a vraiment rompu avec la tradition Apple qui commençait par donner des chiffres. Chiffre de fréquentation d'Apple Store, chiffre de vente de ceci ou de cela. Je crois que depuis Epic, Apple ne s'étend plus beaucoup sur les chiffres. Hein. Donc, tout va bien, les amis, nos produits sont beaux.
Voilà. Exact. Est-ce que Gilles, François, vous avez pu revoir cette keynote depuis lundi ? Non, un manque de temps du côté de François. Gilles ?
J'ai mis des petits coups de sonde de ci, de là, mais je ne l'ai pas revu en intégralité.
Bon, donc, on va revenir tout à l'heure sur les annonces liées à la musique. On commence par les MacBook Pro. On les attendait depuis plusieurs mois, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Les deux modèles annoncés étaient bien au rendez-vous. Deux MacBook Pro, 14 pouces pour l'un, 16 pouces pour l'autre. On va revenir sur les caractéristiques. On va dans un deuxième temps vous expliquer et vous raconter tout ce qu'Apple n'a pas dit lundi soir. Et c'est presque aussi instructif que les caractéristiques que vous trouvez partout, notamment sur Apple.com. Peut-être qu'on peut faire un sort dès le départ sur le moteur de ces MacBook Pro, les amis. Cette nouvelle génération de processeurs, alors pendant très longtemps, on l'a appelé M1X. François, il s'avère que c'était pas le nom définitif.
Bah ouais, une fois de plus, l'ami Mark Gurman avait sorti l'info peu de temps avant la keynote, mais il l'avait sorti. C'est vrai que ça a été une surprise. Enfin, moi, en ce qui me concerne, lundi, j'ai eu quasiment tout faux sur toute la ligne. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez savoir ce qui va se passer, demandez-moi et visez le contraire. Comme ça, au moins, vous serez pas surpris. Non, c'est vrai que ça a été une surprise. Moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'Apple nous sorte deux processeurs, deux nouveaux processeurs. Alors, on peut se dire que M1 Pro, M1 Max, au final, c'est une déclinaison du processeur M1. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a le nom M1 dedans. On voit que c'est une évolution. Maintenant, on ressort de là en se disant ça promet vraiment pour l'avenir et on commence à parler énormément du Mac Pro, du futur Mac Pro. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'Apple nous a sorti sur le MacBook Pro, sur une machine portable, les chiffres qui sont annoncés, ça promet vraiment et ça envoie du lourd comme on l'attendait, voire plus.
Alors, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer la différence entre ces deux processeurs et puis aussi ce qui les différencie du M1 tout court auquel on avait commencé à s'habituer, Ellie ?
D'abord dans le nombre de cœurs, puisque en fait on passe maintenant à 10 cœurs, alors que sur le M1, si je me rappelle bien, on était à 8. Dans les GPU, on était à 8, on passe à 16 dans le cas du M1 Pro et on peut aller jusqu'à 32 dans le cas du M1 Max. La mémoire qui était de 8 ou 16 maintenant est de 16 par défaut et peut passer à 32 dans le cas du Pro et peut aller jusqu'à 64 gigas dans le cas du M1 Max. Et la dernière chose, c'est la bande passante qui peut monter jusqu'à 200 gigaoctets par seconde dans le cas du Pro. Et là où ça devient carrément futuriste, c'est jusqu'à 400 gigaoctets par seconde dans le cas du M1 Max.
François, ces deux processeurs aussi offrent des capacités différentes si on veut brancher des écrans externes.
Ouais, alors ça a été un des gros reproches qu'on avait fait au processeur M1 quand ils sont sortis. Hein, je le rappelle, on ne pouvait brancher qu'un écran externe sur les portables. Sur le Mac Mini, c'était un peu différent parce qu'il y avait deux prises. Il y avait une prise HDMI et puis on pouvait brancher en plus un écran externe. Mais c'est vrai qu'on était assez limité. Là, l'avantage, c'est que sur les processeurs... Alors, une fois de plus, c'est une différence entre le Max et le Pro. Sur le Pro, vous pouvez brancher deux écrans externes et sur le Max, vous pouvez en brancher quatre. Donc, c'est là où on voit qu'il y a une vraie segmentation de la gamme chez Apple entre les deux processeurs. Je pense que le but, c'était vraiment de faire une vraie distinction entre les deux modèles. Après, vous devoir brancher 4 écrans, alors ça peut intéresser certains. Maintenant, je trouve que déjà brancher 2 écrans externes, c'est déjà pas mal. On peut vraiment plus envisager, je trouve, le MacBook Pro comme une machine qui peut remplacer une machine de bureau finalement, parce qu'on rentre à la maison, si vous avez une configuration bi-écran, vous branchez votre Mac et vous pouvez avoir 2 écrans, c'est plutôt cool.
Ouais. Et alors, dans le cas du M1 Pro, on peut gérer 20 flux 4K en ProRes simultanément. C'est déjà pas mal. Mais alors, sur le M1 Max, on peut gérer 7 flux 8K en ProRes, sachant que le 8K, c'est 4 fois la 4K. Voilà, je vous laisse faire le calcul, c'est assez impressionnant. Voilà pour les processeurs qui sont au cœur de ces MacBook Pro. On va passer en détail les caractéristiques de ces nouveaux portables. Peut-être un mot de l'autonomie. Qui veut parler de la gestion des batteries, et des batteries d'ailleurs, Ellie ?
Ben, l'autonomie a un tout petit peu augmenté. On passe à 17 heures sur le 14 pouces et 21 heures sur le 16 pouces. C'est d'ailleurs le 14 pouces légèrement inférieur puisque dans le MacBook Air, on arrivait à 18 heures. Donc un tout petit peu moins dans le 14, c'est un peu étonnant, et 21 heures sur le 16 pouces.
Alors le petit élément qui est intéressant aussi, je trouve, c'est quand on voit l'usage de la batterie, on pourrait se dire que c'est plutôt la consommation vidéo quand vous regardez une vidéo qui mange le plus de batterie. Et vous avez 11 heures de navigation web, moins de temps. Donc c'est là où on voit que Apple a vraiment optimisé son processeur, toute la partie Neural Engine, le décodage, etc. Apple a énormément insisté pendant la keynote là-dessus. Et c'est aussi sur la lecture des vidéos que ça bouffe moins d'autonomie, quoi. Et c'est, alors qu'avant, c'était plutôt le contraire. Donc c'est intéressant, ça montre aussi qu'Apple a vraiment poussé le curseur assez loin de ce côté-là.
Ils ont bardé les différentes versions du processeur de puces d'optimisation en lecture, et d'une part, mais également en encodage. Ce qui fait que le M1 Max donne une véritable station de travail graphique portative comme on pouvait connaître avant avec Dell au moment du de à peu près en 2005.
Alors évidemment, l'une des parties les plus visibles de ce MacBook Pro, c'est le nouveau châssis, le nouveau design. On va quand même en dire un mot. C'est un petit peu un retour en arrière, quelque part, qu'Apple effectue avec ses nouveaux MacBook Pro. Ça fait évidemment penser au G4. Est-ce que vous avez été étonné par cette approche esthétique?
Moi, oui. J'ai tiqué dessus d'habitude. Je suis plutôt bon public. Et là, ça m'a fait un petit peu bizarre. C'est exactement le facteur de forme. Quand on le regarde de profil, on a l'épaisseur du MacBook Pro de 2016. On est à 1,55. On perd 1 cm par rapport au 17 pouces de 2004. Je peux pas dire de bêtises, oui. par rapport au G4, mais on est revenu à ce facteur de forme un peu creux qui permet vraisemblablement davantage de dissipation thermique, mais de la part d'Apple, pour moi, c'est un petit peu décevant.
Ellie ?
Ben, écoute, moi, je crois que l'information, c'est qu'Apple est à l'écoute de ses clients, parfois, et en tout cas des clients professionnels, et je crois qu'il y avait énormément de pétitions pour qu'on revienne à un design avec une sortie HDMI, avec un lecteur de cartes SD, donc on est revenu à quelque chose. Bon, le clavier au début avait posé quelques questions, la touch bar première génération avait provoqué une levée de bouclier parce que le bouton escape intégré faisait qu'on se trompait, il suffisait de survoler pour annuler un message, un bouquin, enfin on a eu des cas dramatiques de clients qui venaient en hurlant à cause de ça. Donc Apple est revenu à une position plus sage et donc c'est pas plus mal d'écouter ses clients et de revenir à quelque chose qui était déjà excellent. Donc on a tenté des nouvelles choses et puis on se rend compte que finalement parfois il faut faire un petit pas en arrière, mais la puissance est tellement importante que le petit pas en arrière du design est presque négligeable, même si on l'a tous remarqué, et il est compensé par plein de choses. Le retour du MagSafe, tellement attendu, puis un son qui a été nettement amélioré, un écran qui est juste incroyable. Il y a eu des petites surprises, hein. On ne s'attendait pas forcément à du ProMotion sur le portable. On s'attendait à du mini LED, mais pas du ProMotion. On va revenir peut-être plus en détail sur l'écran.
Prenons l'écran justement, Ellie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces nouveaux écrans ? C'est la première fois qu'Apple intègre un écran XDR dans un portable.
Absolument. XDR, encore une fois, c'est un gage de qualité. Hein. Donc, on rappelle que ça se retrouve dans des moniteurs d'étalonnage Sony à très très cher. Ça se retrouve dans les moniteurs du Mac Pro à très très cher aussi. Et dans les iPhone donc 12 et 13 Pro. Donc, c'est des écrans extraordinaires. Dans le 13 Pro, on a du 120 Hz. Donc, ce qu'Apple appelle du ProMotion. Donc, le rafraîchissement est variable. Et là, surprise, on retrouve ça sur un 14.2 et un 16.2. Et ça, c'est assez remarquable. Après, il y a toutes les autres caractéristiques. Le fait que l'écran est quasiment bord à bord, ce qui fait qu'on se retrouve à nouveau avec une encoche comme sur un iPhone. Moi, ça ne me choque pas, mais il y a plein de gens qui hurlent à la mort parce qu'il y a une encoche. Bon, Apple a sagement caché ça par les menus, il y a une gestion du curseur, c'est pas... Je suis sûr je crois qu'il y a une illustration que tu as mis et qui permet de voir le comportement dans différents cas et c'est très intéressant à observer. Donc ça, c'est pas trop mal, mais après le reste, c'est juste incroyable. La luminosité qui passe à 1000 nits avec un pic à 1600 nits, ça vaut les meilleurs téléviseurs aujourd'hui du marché. Donc ce qu'on trouve en haut de gamme chez Samsung et LG, donc ça sur un moniteur Apple, c'est vraiment très intéressant. Et il y a le petit bémol que j'avais noté tout à l'heure, donc je viens de me rappeler, c'est quand même petit regret. Comment se fait-il qu'en 2021, Apple n'ait toujours pas sur une machine très haut de gamme un écran 4K qu'on trouve chez tous les écrans PC haut et presque milieu de gamme.
Ouais. Tu peux nous donner les résolutions, Ellie, parce que soyons
bien
précis.
Sûr. Oui, alors la résolution 4K, c'est, je vous le rappelle, 3840 par 2160. C'est pour ça qu'on parle de 2160p en ce qui concerne. Donc ça c'est la 4K et sur les écrans du 14 et 16 pouces, qui se rappelle de la résolution par cœur, qui l'a noté, François? Voilà, je savais que tu savais.
J'ai mes notes en face de moi, la résolution du 14 pouces 2, donc il faut être précis, c'est pas un 14 pouces, c'est un 14 pouces 2.
14.2.
Soyons précis. Donc la résolution c'est 3024 par 1964, donc ça fait du 5,9 millions de pixels. Donc on est à 254 pixels par pouce. C'est la même densité de pixels pour le 14.2 et le 16.2. Et pour le 16.2, on est à 3456 par 2234. Et donc on a 7,7 millions de pixels.
Donc ouais. Il manquait pas grand-chose. C'est plutôt en largeur, puisqu'en fait, on n'arrive pas au 3840. On est à 500 pixels près, hein, si je me rappelle près.
Sur le 16 pouces.
j'ai pas fait le calcul sur le 16 pouces. Par contre, on dépasse en hauteur puisque 2160 et là c'est 2200 et quelques, donc on est un peu plus large, mais on n'a pas un full 4K, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça.
Personnellement, je préfère avoir un écran de bonne qualité et pas avoir de la 4K qu'un écran 4K pourri.
Ouais. Oui. Bon, on est en 16 dixième, hein, si vous voulez, le ratio de cet écran. À propos de l'encoche, en fait, alors c'est vrai qu'elle existe, mais en fait, elle n'est visible que dans une seule... que dans un seul type d'usage. Si on regarde un film ou si on est dans une app ou un jeu en plein écran, l'encoche sera invisible. La seule fois où on va la voir, c'est quand on est sur le Finder, quoi, effectivement, ouais, et de jour.
Oui, et de jour, ouais, hein? Tout à fait.
Dans ce cas, elle est intégrée dans la barre des menus.
Exactement.
C'est fait de manière très intelligente de la part d'Apple. C'est là où on reconnaît le sens du détail d'Apple, quoi. C'est aujourd'hui, honnêtement, la plupart des gens qui utilisent un Mac sont tout le temps en mode plein écran, donc elle sera moins dérangeante, quoi. Puis vu que c'est un écran mini LED, en plus les noirs vont vraiment être noirs.
Ouais. Oui. Alors, il y a eu une petite remarque de certains développeurs, je crois Adobe, hein, on pourra les interroger à nouveau, en disant que sur certaines applications où il y a énormément de menus, ils ont une crainte que ça déborde sur le notch et que ça soit tronqué. Mais je pense qu'ils vont le corriger, il suffit de faire des menus un peu raccourcis, ils vont en tenir compte, hein. Surtout Adobe, hein, donc ils ont la puissance qu'il faut pour rectifier ça.
Je ne veux pas spoiler ton dîner, Ellie, donc nous reparlerons du nettoyage de cet écran du MacBook Pro dans ton dîner tout à l'heure. Le MagSafe, ça vaut le coup qu'on s'y arrête quand même deux secondes. Le retour du MagSafe, c'est une très bonne nouvelle parce que qui ne s'est pas pris les pieds dans l'alimentation de son Mac portable ? Hein ?
Oui. Apple avait vendu l'abandon de ce MagSafe en disant que la prise d'alimentation sur l'USB-C pouvait se défaire très facilement. Et effectivement, je l'ai vu à plusieurs reprises, mais c'est beaucoup plus rassurant et sécurisant d'avoir ce MagSafe et cette alimentation aimantée.
Alors moi, j'avais une autre justification d'Apple, c'était de dire que finalement, les MacBook Pro n'étaient pas si nomades que ça et que dans la plupart des cas, les MacBook Pro, ils sont... sur un bureau dont il ne bouge en fait que très rarement. Et quand il bouge, les batteries sont suffisamment importantes maintenant pour qu'en fait il fonctionne sur batterie et donc sans être sur chargeur, enfin sur branché sur le secteur. François ?
Ça dépend quel logiciel tu utilises, hein, parce que tu fais un Lightroom ou un Premiere sur un MacBook Pro Intel sans le chargeur. Au-delà d'une heure et demie, t'as plus de batterie. Hein, donc je trouve que l'argument il est un peu borderline quand même.
Mais ils pensent qu'au M1, le M1, moi je vois plein de gens qui ne le chargent jamais dans la journée, hein. Ça tient, hein. Mais vraiment dans une journée de travail, je parle bureautique avec de l'Excel, du PowerPoint, des choses comme ça. Pas forcément du Final Cut Pro ou du Premiere, je pense que ça bouffe beaucoup, oui.
Alors ce MagSafe, donc il est c'est un cordon avec une fixation magnétique qui se déconnecte. À la moindre tension, on peut dire ça. Ce qui évite d'arracher la carte mère.
C'est ça.
Hein, c'est ça.
Et d'abîmer des fois le connecteur. Parce que moi, j'ai vu, parmi des clients qui nous le ramènent, des connecteurs USB-C pliés. Parce que quand on se prend le pied dans le câble ou qu'on tire violemment, soit on peut plier le connecteur, soit on plie le câble. Mais j'ai vu des câbles USB-C un peu pliés au niveau du connecteur. Donc ça veut dire que ça arrive, hein. C'est un MagSafe de troisième génération, hein. Et l'intérêt, c'est qu'en plus, il va vers de l'USB-C, c'est-à-dire qu'il peut se brancher sur tous les transfos USB-C qu'on a. Là, il y en a deux de nouveaux, mais ça pourrait se brancher sur un des anciens. USB-C vers MagSafe 3, c'est intéressant.
François ?
Ouais, non, j'allais dire exactement la même chose qu'Eli, là où Apple a été pour une fois intelligent, c'est qu'ils auraient tout à fait pu nous sortir un nouveau transfo non USB-C, et là en l'occurrence le transfo USB-C. Donc imaginons que vous ayez oublié le MagSafe, vous pouvez tout à fait vous brancher avec un USB-C classique sur votre Mac et ça le rechargera. Parce que c'était une des grosses questions pendant la keynote. Est-ce qu'on peut toujours recharger son Mac en USB-C? En l'occurrence, c'est le cas. Et là-dessus, bravo Apple, on a les deux possibilités, donc ça, c'est chouette.
Sauf que cette recharge par USB-C, elle sera moins rapide que par le MagSafe. Pourquoi?
La norme USB-C limite à 100 watts, alors que le transfo va à 140, dans le cas du 16 pouces.
Et chaque fois que tu as de la vicariance comme ça, c'est bien de garder la norme, la fonction précédente, mais tu restes quand même dépendant de ses caractéristiques précédentes. Tu peux pas faire de miracle.
En tout cas, c'était pas gagné que la charge reste possible via l'USB-C. C'est une très bonne nouvelle. Une question sur ce chargeur. On se posait la question de la présence du port Ethernet sur le chargeur.
Oui, et non.
Ça, pour moi, c'est une des grosses déceptions de la keynote de lundi. Si c'est une machine professionnelle, il faut de l'Ethernet. Je vais prendre mon cas. On est à la fac, à l'université. En fait, on a un réseau Wi-Fi qui est relativement dense. Mais il faut garder à l'esprit qu'une borne Wi-Fi, en gros, c'est 25 périphériques. Donc, imaginons que vous avez une fac avec 900 ou 1000 utilisateurs qui viennent avec leur ordinateur portable plus leur téléphone. 2000, ça veut dire qu'il faudrait une centaine de bornes Wi-Fi, ce qu'on n'a pas, nous. Donc, régulièrement, on dit à nos profs, connectez-vous en Ethernet, quoi. Et ben là, ça veut dire qu'il faudra encore se taper un adaptateur. Et c'est vrai que moi, ça fait partie des rumeurs qui étaient sorties en fin de semaine dernière. J'espérais vraiment qu'on allait avoir le même type d'alimentation que sur l'iMac, ce qui aurait été hyper ingénieux, je trouve. D'autant que ça voulait dire qu'il y avait une chance de moins que le Mac tombe aussi, parce que le problème de l'Ethernet connecté en direct sur l'ordinateur, c'est que si vous shootez dedans, le MagSafe va se décrocher, mais l'Ethernet se décrochera pas si ça avait été branché directement à l'alimentation. Du coup, ça voulait dire que les deux se déconnectent, mais c'est pas le cas. Donc pour moi, c'est une déception, parce que du coup, ça veut dire qu'il faudra quand même se taper un putain d'adaptateur, excusez-moi, mais il nous faudra quand même un putain d'adaptateur USB-C vers Ethernet. Et ça, vraiment, moi, je trouve ça très dommage. Apple a fait les trois quarts du boulot. On a le port de carte SD, on a l'HDMI, on a le retour du MagSafe, mais il nous manque l'Ethernet, donc ce sera peut-être pour la prochaine génération, sait-on jamais.
Exactement.
La webcam, ah.
On ne l'a pas vue, mais on en attend beaucoup. Parce que c'est une 1080p, donc comme celle de l'iMac M1, qu'utilise François, là, avec le même système donc qui va améliorer la qualité de l'image en utilisant de l'intelligence artificielle et toutes ces choses magiques qu'Apple sait faire. Et le résultat, c'est, j'attends vraiment avec impatience, c'est qu'on va enfin avoir une image en visio, alors qu'on est dans un moment où on fait de la visio tous, pas du matin au soir, mais presque. Ça va un tout petit peu nous changer la vie.
Le son, Apple annonce à chaque nouvelle génération le portable avec le meilleur système de son. Bon, on se dit toujours qu'on ne peut pas faire de miracle avec un ordinateur portable côté audio, mais là, c'est vrai que ça semble assez séduisant, et notamment l'idée de placer des, comment on appelle ça, des boosters de grave,
des woofers.
Ouais.
C'est une idée géniale, d'autant que il y a une élimination, ou du moins une réduction des vibrations, ce qui fait que...
Oui, c'est ce qu'Apple appelle un effet d'annulation de force. C'est des woofers à annulation de force.
Donc ça fait 6 haut-parleurs en tout, hein, c'est ça?
Oui, c'est donc il y a 4 haut-parleurs de grave et 2 haut-parleurs d'aigu. Donc 4 woofers et 2 tweeters. Voilà. Qui ne sont pas des réseaux sociaux, hein, je vous le rappelle.
3 micros de qualité studio, dit Apple.
Moi, je mettrais des gros guillemets parce que rien ne vaudrait un vrai micro, je pense, malgré tout. Et puis, on reste toujours tributaire aussi de la pièce. Hein. C'est bien gentil, mais si vous êtes dans une pièce avec plein d'échos, ça reste des micros qui seront peut-être bien pour de la visio, mais bon.
Et puis, validation, cette compatibilité avec le spatial audio.
Mais oui, ça fait partie des choses que un peu inattendues, mais que j'attends de tester avec impatience. Un film, effectivement, en Dolby Atmos, et voir si on est enveloppé par le son lorsqu'on est devant son portable. Ça va être une vraie expérience à faire.
Le lecteur de cartes SD, on en a un petit peu parlé ces derniers jours, notamment dans F5 avec toi, François. Là aussi, ça va être un gain de temps. Pour les photographes, pour tous ceux qui manipulent des fichiers sur carte mémoire.
Ouais, bah c'est vrai que c'était. Enfin, moi je trouvais ça très pratique, d'autant que c'est toujours pareil. Hein, en fonction du videur de cartes que vous aviez, des adaptateurs, c'est pas toujours les plus rapides, quoi. Là, au moins, c'est intégré au système, c'est directement collé à la carte mère, donc on peut se dire que les transferts vont être très rapides, surtout quand on voit la rapidité des SSD. Et c'est vrai que le fait qu'Apple en plus fournisse en standard un modèle en 512 Go, ça a été une des belles surprises aussi. Hein. Alors, voir le 256, vous allez me dire, sur une machine à quasiment plus de 2 400 €, c'est logique. Mais voilà, je pense qu'on va vraiment gagner en rapidité. C'est vrai que ça veut dire que sur le terrain, en gros, un photographe ne sera pas obligé de se trimballer en plus un adaptateur. La plupart des appareils photo aujourd'hui utilisent des cartes SD, même les appareils photo professionnels. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu le standard. Donc c'est très bien de la part d'Apple et pour les caméras aussi.
Et il y a un petit bémol quand même par rapport à ça, parce qu'il semblerait qu'il y a une nouvelle norme en SD qui est sur le point de sortir, et évidemment il y a 3-4 chroniqueurs qui ont dit « mais pourquoi Apple a sorti un lecteur SD card avec la norme actuelle alors qu'il y a une nouvelle qui arrive ?» Ils auraient pu attendre et incorporer la nouvelle. Comme il y a eu la même chose, Apple met un port HDMI 2, ce qui est déjà super, et les gens disent « oui, mais maintenant il y a le HDMI 2.1, pourquoi ils n'ont pas mis du HDMI 2.1 ?» Ben oui, parce qu'il y aura une génération plus tard. Donc l'HDMI 2.1, pour l'instant, il y a très peu de téléviseurs qui le supportent. Ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Donc il faut faire à un moment donné un choix.
Puis on l'avait dit, ça coûte la peau des fesses.
Oui.
On est passé à $80 le port au lieu de 4 auparavant. Et quand on est bien content d'en avoir.
Alors on en vient peut-être à l'aspect le plus douloureux, c'est l'addition, les prix. Alors d'abord peut-être un petit tour sur l'Apple Store, c'est quand même notre source la plus simple pour faire des comparaisons, mais comment est-ce que ça se passe, l'acte de commande, si on le fait en ligne, d'un de ces nouveaux MacBook Pro?
Bah déjà, la surprise, c'est qu'on n'a que deux couleurs, et c'est les deux mêmes couleurs que l'ancien MacBook Pro, c'est pareil. Donc vous avez le gris sidéral et l'argent, donc les couleurs classiques du MacBook Pro. Et puis bah après, la première étape, en fait, ça va être de choisir, c'est-à-dire de savoir si vous voulez un modèle avec un M1 Pro 16 Go de mémoire unifiée. Ça, c'est la même configuration sur les deux modèles. Hein. Et vous avez un SSD. La différence en fait entre les deux modèles qui sont affichés sur le site, c'est SSD de 512 Go ou SSD de 1 Tera. Et sur le modèle dit d'entrée de gamme, vous avez 8 cœurs de CPU, 14 cœurs de GPU, alors que sur le modèle qui est un peu au-dessus, vous avez 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU. Et c'est là où je trouve qu'on arrive au côté complexe de cette gamme, c'est qu'en fait vous avez plein de configurations différentes. Et qu'en fonction de la configuration que vous allez choisir, il y a des options qui se rajoutent, qui s'enlèvent. Truc tout bête, si vous prenez un Air Max, vous avez moyen potentiellement de pouvoir passer à 16 Go, mais le SSD restera 1 Tera. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont pas très très logiques. Et du coup, c'est très compliqué de s'y retrouver sur la gamme.
Qu'est-ce que tu veux dire, François, par passer à 16 Go? Parce qu'ils sont tous avec 16 Go de mémoire en standard.
Alors ils sont tous à 16 Go, mais après tu as des options 32, 64, et selon le modèle que tu vas prendre, tu vas être obligé de prendre 32 Go, et tu pourras pas rebasculer à 16, le SSD sera toujours à 1 Tera, tu pourras pas redescendre. Il y a des configurations, en fait, on dit que c'est du CTO, mais en fait tu as des trucs qui sont imposés dans le lot, et c'est pas toujours le même truc, donc c'est... Enfin, la configuration est vraiment spéciale, vous aurez l'occasion de le tester si vous en avez commandé un. Et vous avez plein de configs possibles, je prends l'exemple du... Là j'ai sélectionné un M1 Max du coup. Vous avez moyen de rebasculer avec 32 cœurs, et donc du coup vous avez 64 Go par défaut qui vous sont proposés, mais vous avez moyen de rebaisser derrière. Enfin, bon. Je trouve que la commande est vraiment compliquée, il ne faudra pas se planter sur la configuration, sur le choix que vous ferez.
Ouais. Et combien valent les options typiquement si on veut passer de 16 à 32 Go de mémoire, si on veut plus de stockage, combien ça coûte?
Alors le passage de 16 à 32 Go coûte 460 €. Donc c'est quand même c'est pas négligeable. Ouais. Et si vous prenez par exemple le modèle d'entrée de gamme, vous n'avez pas moyen de prendre 64 Go de mémoire unifiée. Vous êtes bloqué à 32. Si vous voulez passer à 64 Go de mémoire unifiée, il va falloir que vous passiez sur le processeur M1 Max. Ce qui est logique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a dit. Donc les configurations sont vraiment différentes. Et le SSD, je trouve que sur le SSD, Apple se goinfre moins qu'avant. Le passage du SSD de 512 à 1 Tera, c'est 230 €. Alors vous allez me dire, c'est quand même 230 €, mais on a connu une époque où Apple faisait payer le supplément beaucoup plus cher.
Oui.
Mais un petit point, c'est un peu surprenant et François a totalement raison. Quand on commence à faire une configuration CTO, on se rend compte qu'Apple a un peu simplifié pendant la keynote et qu'il y a des options qui sont un peu bizarres. Par exemple, le modèle d'entrée de gamme, effectivement, démarre à 8 cœurs alors qu'Apple a dit le M1 Pro, c'est 10 cœurs. Bon, ben non, il y en a un à 8. Et du coup, 8, ça nous ramène un peu au M1. Autre chose, ils nous ont dit... Bah, si vous allez, je l'ai sous les yeux, si vous allez sur un Max, vous allez directement avoir 32 GPU. Eh ben non, il y a une config avec 24. Et 24, Apple n'en a jamais parlé. Donc c'est un peu surprenant. Et la chose qu'on a remarqué tout de suite et qui, à mon avis, va interpeller et intéresser nos auditeurs, c'est le modèle en 14 pouces haut de gamme, puisqu'il y a deux modèles qui sont proposés. Il est à 2 749 €, ok ? Sauf que 2 749 €, c'est le prix du 16 pouces d'entrée de gamme. Donc, est-ce que à exactement le même prix, vous allez acheter un 14 pouces ou un 16 pouces ? Alors certes, dans le cas du 16 pouces, c'est un 512 Go, mais si le... Alors que le 14 pouces... est 1 Tera, mais la question c'est pour le même prix, est-ce que vous voulez un écran de 16 pouces ou un de 14 avec certes un disque dur plus petit? On peut se poser la question parce que c'est vraiment au même prix.
Est-ce qu'il y a d'autres options en dehors de la RAM, du processeur et du stockage?
Ah bah oui, il y en a une qui est quand même assez étrange selon le modèle que vous allez prendre, c'est l'histoire du fameux adaptateur secteur. En fonction du modèle que vous prenez, l'adaptateur secteur, par exemple si vous prenez le Mac d'entrée de gamme, vous avez un adaptateur secteur qui est fourni, qui est de 67 watts, et vous pouvez prendre en option un 96 watts pour 20 €, ce qui est complètement pingre de la part d'Apple. Ça fait partie des, toujours pareil, hein, des petites lignes. C'est quand même assez bizarre de faire payer plus cher pour avoir, surtout 20 €, quoi. Ça aurait été un modèle un peu plus cher, enfin un peu plus, beaucoup plus puissant, pourquoi pas, mais là c'est 20 balles, quoi, Apple, quand même.
Et là en fait c'est 20 € de plus pour bénéficier de la charge rapide, sinon on est en charge standard.
C'est ça.
Par contre les 16 pouces sont tous en 140 watts.
Là, il n'y a pas de débat, sauf si on passe par l'USB-C, où là, on l'a dit, on charge seulement en 100 watts.
Oui. Après, d'autres options exotiques, non, on peut avoir du logiciel, mais c'est pratiquement tout. Alors, les SSD, c'est vrai qu'on peut monter jusqu'à 8 Tera, hein, donc pour la petite modification de 2 530 €, mais quand même, 8 Tera, hein, sur un portable, c'est... C'est très chouette. Après, c'est sinon, on a des options pour ajouter Final Cut et Logic Pro. Bon, ça.
Une parenthèse, je ne sais pas si le fait de ne pas pouvoir descendre à 16 gigas de mémoire unifiée quand on est avec un GPU de 24 cœurs, puisqu'on est sur de la mémoire unifiée, est-ce que ce n'est pas tout simplement une question de multiples et de capacité de capacité de calcul, les 24 cœurs ayant physiquement, de façon intrinsèque, besoin de ces fameux 32 gigas, tout simplement.
Peut-être. Juste puisqu'on parlait des disques durs, enfin des SSD pour être plus précis, et du stockage, apparemment Apple, a pas lésiné, hein, c'est le top du top. Ils sont encore plus rapides que les SSD embarqués dans la PS5, qui sont déjà une référence. La PS5 il tourne à 5,5 gigaoctets par seconde. Là, on parle de 7 gigaoctets par seconde pour 7,4 très précisément, oui, pour les SSD qui équipent ces nouveaux MacBook Pro.
Il faut dire, Apple a décidé de supprimer tous les goulets d'étranglement, sachant qu'il y a des composants qui représentent le top du top, l'état de l'art de ce qui est disponible sur l'industrie, donc il supprime tout ce qui est goulet d'étranglement, de manière à pouvoir marquer les esprits et définitivement prendre le leadership en matière technologique.
Bon, il y a plein d'autres infos qu'Apple n'a pas livrées lundi soir. On les a réunies pour vous et on va les partager avec vous dans un instant. Suite de la découverte de ces deux nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces dévoilés lundi soir par Apple lors de l'Apple Event baptisé Unleashed. On a plein de petites choses à vous dire en complément de ces caractéristiques officielles qui sont notamment sur apple.com, vous les retrouverez un peu partout. On commence par quoi les garçons? On a plein de petits détails à vous donner. C'est bien.
Qui veut démarrer? On est timide.
François au tableau.
François, peut-être qu'on peut commencer par les ports USB-C. Alors d'abord, 3 ports au lieu de 4. Hein.
Oui, mais ça, à la limite, c'est pas très, très... Moi, ça me surprend qu'à moitié, il y a une question de place, je pense. Et puis, je rappelle qu'Apple nous a rajouté de l'HDMI, nous a rajouté du MagSafe, nous a rajouté le lecteur de carte. Et je pense qu'il y avait tout bêtement peut-être plus de place sur le châssis. De toute façon, on part du principe que sur les 4 ports qui existaient, il y en avait un pour la recharge, donc Apple s'est dit, de toute façon, si on en enlève un, finalement, c'était celui qui servait à la recharge. Après, je trouve ça dommage. Je pense que 4 ports, c'est pas du luxe. Mais bon, déjà, on n'aura plus d'adaptateur pour le recharger, on n'aura plus d'adaptateur pour le brancher à un vidéoprojecteur, et on n'aura plus d'adaptateur pour une carte mémoire. Donc au final, on peut se dire que ça passe. La petite nouveauté, c'est qu'on passe à du Thunderbolt 4, donc c'est des prises USB-C, oui. Hein, le même format, mais on passe à du Thunderbolt 4, alors que les MacBook Air et MacBook Pro M1 qui étaient sortis, c'était uniquement du Thunderbolt 3. Donc du coup, c'est un petit gain. Là, d'un point de vue durabilité, ça va tenir pendant des années et des années.
Le chargeur 140 watts du MacBook Pro 16 pouces est un peu un précurseur, en tout cas, et d'un nouveau type, Eli.
Oui, mais j'ai essayé de comprendre en quoi il était différent. C'est la première fois qu'on utilise un chargeur dit gallium arsenide, mais je ne sais pas du tout ce que c'est, donc j'avoue.
C'est une nouvelle technologie de chargeur qui est de plus en plus utilisée. Je pense à des marques tiers comme Anker, a dû en produire, etc. Normalement, c'est censé moins chauffer, c'est censé être plus compact, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que quand on voit la tête du chargeur 140 watts d'Apple, je trouve pas qu'il soit beaucoup, beaucoup plus petit. Mais visiblement, pareil, ça fait partie des technos du futur pour les chargeurs secteur.
D'autant que si ça chauffe moins, le rendement énergétique est meilleur. On transmet plus d'électricité et on produit moins de chaleur.
Alors, on attend évidemment avec impatience les premiers vrais tests, les bookmarks, etc. Mais on a une première indication sur la qualité de la puissance graphique de ces nouveaux MacBook Pro. Apparemment, le processeur, l'ensemble de processeurs graphiques du M1 Max atteindrait les performances de la RTX 3080 Nvidia en version portable.
Oui. Qui est une référence.
Et en consommant 100 watts de moins, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, évidemment.
Ben oui, on s'attend à des jeux magnifiques sur un écran magnifique et très fluide parce qu'en plus c'est du ProMotion, donc vraiment on attend de voir ça.
Et puis je pense que l'avantage aussi c'est qu'Apple une fois de plus gère toute la chaîne de A à Z, donc ça joue aussi au niveau de l'optimisation, hein, c'est toujours la même chose. Le fait qu'Apple développe le GPU, le CPU et puis tout gère, voilà, tout est centralisé, tout est unifié, c'est aussi pour ça que on arrive à avoir quelque chose d'aussi rapide et d'aussi fiable. Mais voilà, je pense que peut-être que ça va inciter aussi des développeurs de jeux vidéo à développer plus sur Mac, parce que finalement les performances sont tellement bonnes que il y aura peut-être moyen de faire des choses.
En ce qui concerne la mémoire, alors c'est aussi un nouveau type de mémoire qui apparaît avec ces MacBook Pro. Oui. Donc mémoire unifiée, donc elle est intégrée, hein, directement à la carte mère. Elle est... Non, tu dis, Gilles ?
Non. Au lieu d'avoir le processeur au centre, avec tous les périphériques qui travaillent pour le processeur, les mots ont un sens. Le processeur était sur la carte mère. Et tout le reste était sur éventuellement des cartes filles. Là, c'est la mémoire qui est en position centrale et sur la puce unifiée, et elle est mise à la disposition de l'ensemble des processeurs, de l'ensemble des cœurs logiques. Ça va même au-delà de ça. On est sur une rupture conceptuelle.
En tout cas, cette mémoire qui est au centre, elle est d'un type différent de ce qu'on a croisé avec le M1. Le M1 utilisait de la LPDD R4X.
Oui.
Hein, vous me dites si je me trompe.
Oui, c'est exactement ça.
Tout comme la puce A15 des iPhone 13. Et là, avec ces nouveaux MacBook Pro, on a de la LPDD R5. Ce qui débouche donc sur cette bande passante mémoire que tu évoquais, Ali, tout à l'heure, 200 gigaoctets secondes avec le M1 Pro et 400 gigaoctets secondes avec le M1X. Oui. Alors, c'est un peu moins rapide que sur la PS5.
Ah, peut-être. Moi, j'allais la comparer au M1 parce que tout à l'heure, on n'avait pas le chiffre, mais on l'a retrouvé depuis. Sur un M1, elle était de 68,25 gigaoctets. Donc, ça veut dire qu'on est passé de 68 à 200 et 400. Et donc, c'est vraiment un saut énorme.
C'est
mais un peu moins rapide que la PS5.
Ouais. C'est 3 fois et 6 fois plus rapide que sur le M1, qui représentait déjà un bon. Hein.
Oui.
Ah oui.
L'échelle de valeur aussi, on l'a pour le Mac Pro. Et quand on voit pour le Mac Pro, la DDR4, c'est 140 gigaoctets par seconde via 6 canaux. Donc, on s'imagine ce que ça peut donner pour les M1 Pro et M1 Max. C'est quand même assez impressionnant. Et je le répète, je l'ai dit en préambule, qu'est-ce que ça va être pour le Mac Pro avec les puces M1? Ça va être phénoménal.
Un mot des antennes Wi-Fi sur ces nouveaux MacBook Pro. 3 antennes Wi-Fi 6 au lieu de 2 sur les MacBook Air et MacBook Pro M1. Et donc on avait 1200 Mbps de débit potentiel en Wi-Fi 6 sur ces deux portables M1 dévoilés il y a un an. Là on est à 1800 Mbps si on dispose d'un bon routeur avec plusieurs flux, 3 en l'occurrence, un par antenne.
Faut pas avoir votre Livebox, quoi.
C'est ça.
Mais même la dernière Freebox n'est toujours pas en Wi-Fi 6, si Xavier Niel nous entend, qu'il avait dit que le jour où ça serait un standard, il s'adapterait au standard, ben voilà, là on est en Wi-Fi 6, hein, donc ça serait bien.
Je tiens à remercier Bastien Garès, j'espère bien prononcer son prénom, qui a publié une série de tweets hyper intéressants hein, sur ces nouveaux MacBook Pro. On s'en inspire ce soir pour faire ce tour d'horizon des données, des caractéristiques qu'Apple a pas forcément pu publier lundi soir. Et un détail aussi sur les processeurs M1 Pro et M1 Max, Bastien fait remarquer qu'il y a 2 fois moins de cœurs basse consommation que sur le M1, mais la taille du cache de niveau 2, le cache L2, reste la même. Donc en fait, il y a 2 fois plus de cache par cœur par rapport au M1. Ça veut dire que ces deux petits cœurs auront probablement un peu plus de patates, dit Bastien en théorie.
C'est pas la taille qui compte.
Ça faisait longtemps.
François. En fait, c'est assez étonnant sur l'écran. On a découvert après que la chiffonnette servait bien à quelque chose. Et qu'ils auraient pu la mettre dans la boîte quand même, hein. Petit joueur. De même que là, la bande passante par rapport à la PS5, ouais, il reste 400, ils auraient pu pousser un tout petit peu, dire nous aussi on est aussi rapide qu'une PS5. Non, c'est pas grave, c'est pas le même usage.
Alors en termes de dispo, dernière info qu'on peut vous donner, vous avez peut-être déjà commandé depuis lundi soir, dans ce cas vous êtes fixé sur la date d'arrivée de votre nouveau MacBook Pro, au mieux ce sera mardi prochain, le 26 octobre, puisque c'est le premier jour prévu. Mais très très vite, hein, au bout de quelques minutes, les dates ont commencé à glisser. Où est-ce qu'on en est en ce milieu fin de semaine ?
On est rendu à mi-novembre, et puis à partir du moment où vous commencez à faire des configurations particulières, si vous voulez un nombre de GPU particulier, si vous voulez de la RAM, si vous voulez du SSD, ça peut être trop poussé jusqu'au fin novembre, début décembre. Alors il y a eu des modifications, moi j'ai un pote qui a commandé un MacBook Pro 16 pouces boosté. Quand il a passé commande, on lui annonçait une dispo à peu près à la mi-décembre, et finalement, dès aujourd'hui, eh ben, c'était passé à mi-novembre. Donc je pense qu'ils ont dû réajuster aussi les dispos, et on a vu une petite différence aussi entre le modèle américain et le modèle français. Je pense qu'il y a l'histoire du clavier qui doit jouer aussi, en fonction du clavier QWERTY, AZERTY, en fonction des régions. Maintenant, je trouve que le délai de dispo c'est pas beaucoup reculé par rapport à d'autres modèles comme l'iMac, l'iMac M1 qui est toujours très compliqué à trouver aujourd'hui. Limite aujourd'hui, vous commandez un MacBook Pro, vous l'avez plus vite que l'iMac M1 qui a été présenté il y a 6 mois. Donc c'est assez étrange.
C'est vrai.
Enfin, je trouve ça. Voilà, c'est les problèmes de dispo d'approvisionnement en ce moment qui sont très compliqués.
Il y a une explication, c'est que Apple a commencé à faire des stocks de composants pour chaque modèle afin de prévoir un lancement et une réponse à la demande initiale. Et depuis le mois d'avril, le lancement de l'iMac, c'était au printemps, que je me trompe pas, ces oui. stocks-là ont largement été épuisés et on est tombé dans l'étiage un peu de l'approvisionnement des composants au fil de l'eau, tels que l'ensemble des constructeurs peuvent les connaître actuellement.
Alors, je viens de faire une simulation de commande sur l'Apple Store. Je me suis fait plaisir. Hein. J'ai pris un MacBook Pro 16 pouces en gris sidéral, donc avec une puce M1 Max avec 10 CPU, 32 GPU et les 16 cœurs de Neural Engine. J'ai passé la mémoire à 64 Go, bah, pour être un peu confort. J'ai mis 2 Tera de disque dur de SSD. Là, je suis resté assez ouais. raisonnable quand même. Hein. Je n'ai mis que 2 Tera.
Il y a de quoi travailler.
Je m'en sors pour 4 769 €. Et la livraison est prévue au plus tôt le 24 novembre. Au plus tard le 1er décembre. En tout cas, je serai livré de mon MacBook Pro avant de recevoir ma chiffonnette qui, elle, ne sera là que le 3 décembre.
Ah là là.
Faudra pas l'utiliser pour autre chose, Benji. Hein.
Non, je ferai pas en les carreaux cas, avec, promis.
Moi, je suis plus raisonnable, en fait, dans ma config. Mais moi, j'ai prévu, j'espère que j'en aurai un. Après, je ne sais pas si on va me l'attribuer, mais j'ai prévu une config standard, pas une CTO. Et j'ai beaucoup hésité, finalement, entre le Pro et le Max. Et je vais prendre, finalement, une config Pro en standard, celle qui est à 2900, hein, donc pour rester un tout petit peu inférieur à 3 000 €, parce que j'ai regardé, j'ai pris un Tera parce que j'ai vraiment besoin de stockage, mais j'ai pas besoin d'un double encodeur ProRes qu'il y a dans le Max. Au départ, j'avais fixé une config Max, mais 3 800 €, donc je me dis, combien de fois je fais de l'encodage dernièrement, parce que j'ai pas trop le temps de faire du montage. Est-ce que c'est raisonnable de payer presque 1 000 € de plus pour la config? Alors je me suis auto-calmé et je suis revenu à une Pro. Je suis resté, je pense, très sage.
Il faut dire que si on rajoute l'Apple Care, ce qui est fortement recommandé, on rajoute 450 € de plus pratiquement.
Ah, il y a un truc au niveau d'Apple Care qui est assez intéressant que j'ai appris cette semaine.
Apple Care, c'est 399 €.
Ah, 400 alors.
Ouais. Ellie?
Oui, une petite info. Vous savez qu'Apple a sorti maintenant une version mensualisée d'Apple Care. Donc, on peut le payer par mois. Donc, c'est tout nouveau. Hein. Ça vient de sortir. On ne sait d'ailleurs même pas comment on va le vendre, puisque c'est un prélèvement mensuel. Nous, on n'est pas une banque. Hein, donc, on n'est pas censé prélever les gens. On ne sait pas trop faire. Hein. Mais bon, on attend qu'Apple nous explique comment ça va marcher.
Ça se fait pour l'électroménager. C'est en fait une assurance. C'est plus l'Apple Care tel qu'on avait pu le connaître au lancement. Et au fur et à mesure que les 2 ans de garantie légale en avaient diminué l'intérêt, puisque
oui,
c'était 3 ans, ils avaient fait évoluer le contrat vers quelque chose qui tendait plus vers l'assurance avec toutes les restrictions et les clauses restrictives qui vont avec.
Bon, en tout cas, c'est une première pour Apple et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de constructeurs autres qu'Apple qui fassent ça aujourd'hui. Hein. Donc, c'était juste à signaler. Hein.
Très intéressant, Ellie, effectivement, cette précision sur l'évolution d'Apple Care. Merci beaucoup, les amis. Je pense qu'on a fait un premier gros tour d'horizon de ces nouveaux MacBook Pro. On y reviendra évidemment la semaine prochaine et puis dans i5 parce que on va continuer d'avoir des détails et puis les machines commenceront à arriver en début de semaine. Arrivé. Donc évidemment, le sujet des MacBook Pro n'est pas clos. Dans un instant, l'autre morceau de cette keynote, ça n'a duré qu'un quart d'heure, mais ça a été le premier quart d'heure, une surprise non négligeable avec les AirPods 3. De nouveaux HomePod mini en couleur, ça c'était vraiment inattendu. Et puis peut-être la plus grosse des surprises en ce qui concerne la musique, cette variante d'Apple Music deux fois moins chère. À tout de suite. La keynote a commencé par de nouveaux HomePod mini en couleur. Alors je sais que tu es fan, Gilles, en tout cas j'ai cru comprendre que tu les appréciais beaucoup. Jean-Christophe a aimé aussi le mouvement, même s'il n'est pas forcément client, mais en tout cas, il y a une volonté d'Apple, sans baisser le prix, de séduire vraiment et d'entrer dans les foyers avec ce petit haut-parleur connecté qui fonctionne avec Siri.
Moi, ça me semble un coût assez futé. On en met un à côté d'un iMac de la couleur coordonnée et on a un son d'extrêmement bonne qualité avec du Dolby Atmos et on a un environnement, un intérieur un peu plus fun que simplement le blanc et le noir qu'on connaît habituellement avec de l'iFi.
C'est juste un peu mis en couleur, hein, non ? Enfin, pardon, mais...
Oui, mais on continue sur cette intégration de la couleur à l'environnement Apple, alors qu'on était sur du gris, du blanc, on retrouve le fun et le. Je me suis fait la réflexion. Tout le monde a un air blasé par rapport à ces HomePod en couleur.
Mais les couleurs, elles sont tout sauf fun, Gilles, sérieusement. Et puis elles sont même pas coordonnées avec les iMac.
Je suis désolé,
c'est HomePod jaune.
Elles sont coordonnées avec l'arrière des iMac. Tu regarderas. Je mettrai les deux photos, les deux présentations côte à côte sur Twitter. Vous verrez avec le hashtag, vous verrez.
C'est plutôt l'avant que tu vas montrer que l'arrière d'un Mac, non ?
Ouais, mais Gilles a raison. Il n'y a pas toutes les couleurs, mais ça se ressemble.
En tout cas, les couleurs sont assez jolies. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a eu des appels de clients en disant « Ah ben, j'ai vu les couleurs, c'est magnifique, quand est-ce que ça arrive ?» A priori, n'attendez pas de HomePod mini avant la fin du mois de novembre.
De toute façon, Apple a annoncé...
Apple a annoncé novembre. Novembre, ils n'ont pas dit début ou fin. Les infos qu'on a, nous, de la part de nos grossistes et même d'Apple, c'est plutôt fin novembre. Hein. Donc, à temps pour Noël, bien sûr, mais probablement à temps pour le Black Friday, mais n'attendez pas ça pour la première quinzaine de novembre. Hein. Donc, si vous avez un anniversaire ou quelque chose comme ça, restez sur le noir et blanc. Les autres, ça sera pour la fin du mois plutôt.
Je trouve ça finalement assez logique qu'Apple propose des HomePod mini en couleur. C'est un produit qui est plutôt censé être pour le grand public, pas pour les professionnels. Et c'est vrai que du coup, on s'attend plutôt sur les modèles pro à avoir du gris et du blanc. Et sur les modèles un peu plus fun, grand public, la couleur. Donc ça paraît logique qu'Apple les sorte dans ces couleurs-là. Et puis ça permet de redonner une seconde jeunesse à un produit qui a déjà un an, qui s'est vendu par palette. Et à mon avis, ça va continuer. Clairement, j'envisageais d'en racheter d'autres le jour où j'aurai une plus grande maison, une maison tout bêtement. Et c'est vrai que voilà, de se dire qu'on peut mettre un peu de couleur, ça peut être sympa. C'est voilà, quand ça a été présenté lundi, moi je dis que je trouvais ça un peu voilà, mais en même temps, ça tient la route et puis ça met de la couleur dans la vie, donc pourquoi pas.
Est-ce qu'ils n'auraient pas mérité d'être positionné 10€ moins cher ou enfin faire un petit effort sur le prix?
Ben, là, on commence à atteindre les limites de ce qu'Apple sait faire. Rappelez-vous qu'il y a quand même un chargeur USB-C de 25€, donc des enceintes de qualité avec un câble tressé coordonné à moins de 75€, ça commence à être compliqué à trouver sur le marché. Je parle de qualité, hein, bien sûr. Donc non, 99€, j'ai pas vu un seul client qui se plaigne du prix. Ils sont plutôt surpris en disant « Quoi ? Apple a un produit à moins de 100€ ?»
Et puis, il faut se rappeler que les HomePod originels étaient à 329 €. Donc, du coup, c'est plus de 3 fois moins cher. Donc, ça paraît bon marché, alors que ça n'est pas tant que ça au final. Mais par rapport au reste, oui.
Il y a une nouvelle référence maintenant. C'est le prix de 3 chiffonnettes, hein, juste l'enceinte. Hein, donc, c'est la nouvelle référence Apple.
Bon, j'arrive pas à vous faire dire
non,
du
4.
Mal de nouveau. Oui, 4
non,
chiffonnettes, c'est vrai.
Oui, avec le chargeur, c'est vrai. Avec ouais. Le chargeur. Moi, je parlais
oui,
juste
sûr.
De l'enceinte.
Je n'arrive pas à vous faire dire du mal de ces nouveaux HomePod mini.
Non, on les aime
c'est
bien.
C'est donc que ce sera à nouveau un succès, probablement.
Oui.
Bon, ça nous conduit tout droit vers les deux autres annonces de cette partie dédiée à la musique en début de keynote. On va commencer par ce nouveau service. Alors, comment dire, cette variante d'Apple Music, cette variante deux fois moins chère en tout cas, parce qu'elle est à 5 € au lieu de quasiment 10. Est-ce que d'abord, Ellie, tu as compris exactement ce qui change, en quoi ça consiste, à quoi on renonce et quel est le compromis à accepter pour payer Apple Music, sa musique deux fois moins chère?
Bah, en fait, on renonce à utiliser l'application musique, c'est-à-dire que la seule façon d'accéder à cet abonnement, une fois que vous l'avez, c'est à travers Siri. Donc, vous ne pouvez pas avoir les pochettes des albums, vous ne pouvez pas avoir les playlists avec la liste des titres. Vous pouvez juste dire à Siri, Siri, joue-moi tel album, joue-moi telle playlist, joue-moi telle chanson. Et Siri va la jouer. Mais vous n'aurez pas, par exemple, les paroles qui s'affichent à l'écran de votre Apple TV ou de votre iPhone. Donc, c'est un certain nombre de petites choses, mais la musique sera là. Le catalogue est intégral et la qualité est la même.
Ouais, on n'a pas les clips vidéo non plus.
Non. Bien sûr.
Et le spatial audio?
Non. Ça fait partie des différences, justement.
Ah.
Je crois que le spatial audio, tu devras t'en passer aussi si tu payes 5 € au lieu de 10, Ellie.
Oui, mais le problème, c'est que déjà que je trouve que c'est extrêmement compliqué pour moi hein, de naviguer dans Apple Music, peut-être parce que j'ai moins l'habitude que François, par exemple. Quand on est habitué aux playlists Spotify, moi, Apple Music, je deviens fou pour trouver des choses dedans. Mais donc, si déjà je n'ai pas cette possibilité de recherche et d'avoir un feedback visuel ou textuel en me disant c'est bien l'album que je cherchais ou c'est bien le groupe que je cherchais, si c'est juste par la parole, je vais dire non, Siri, c'est pas celui-là, non, c'est pas la bonne version, non, t'étais trompé, tu m'as pas bien compris, non, c'est pas pour moi ça, je peux pas. Je comprends que les jeunes ont l'habitude de travailler, parce qu'ils connaissent exactement les titres. J'ai fait une démo d'Apple Music au magasin à quelqu'un, moi j'avais mon iPhone, hein, donc je triturais Apple Music pour chercher quelque chose. Lui, il s'est approché du HomePod, il lui a dit joue-moi telle chanson de tel groupe, c'était un groupe de rap, je n'ai même pas compris ce qu'il a dit, mais ça l'a joué. Hein, donc c'est un saut générationnel, je m'incline.
Bon, après, le timing était quand même pas bon du tout, puisqu'on a quand même eu une panne de Siri peu de temps après la keynote. Donc si Siri est en panne, ça veut dire que vous pouvez pas écouter de musique, quoi, parce que vu que le service dépend de Siri.
Mais Ellie a raison, hein, le point fort de Spotify, c'est le prix pour certaines options d'entrée de gamme et puis la qualité de ces listes de lecture. Et j'utilise de temps en temps la fonction vocale avec Siri et c'est relativement efficace. J'ai dit relativement parce qu'il y a de temps en temps des scories, pour pas dire des conneries, quand il lance des trucs absolument invraisemblables. C'est aussi, ça s'adresse à une génération qui aime découvrir des choses nouvelles, alors que plus on avance en âge, et je me mets dans le lot, plus on a tendance à écouter toujours les mêmes albums, les mêmes interprètes et éventuellement les mêmes genres. Tandis que d'autres générations sont plutôt sur le moment. Alors,
bon, en tout cas, c'est une bonne idée. Hein. Je trouve qu'Apple est sorti un service à moitié prix. Ça permet à des gens d'accéder à un service à moins de 5 €. Moi, je ne suis pas client, mais on va voir. Je pense qu'ils ont fait leurs études avant de le sortir.
Concurrentiellement, c'est une très bonne idée, effectivement, de casser les prix.
Ouais, et puis, si les gens sont intéressés, ils prendront le service complet.
Ça fera un bon complément pour Back to School en fin d'année, je pense. On verra.
C'est donc Apple Music Voice, hein, c'est le nom exact de ce nouveau service, de cette déclinaison d'Apple Music à 5 €, donc piloté entièrement par Siri. Et pour piloter cet Apple Music, les AirPods 3 sont tout désignés, Eli.
Ah, c'est des beaux produits qu'on attendait depuis si longtemps. Donc, ça vient s'intercaler entre les AirPods deuxième génération qui ont baissé de prix et les AirPods Pro qui, eux, sont restés et qui gardent leurs avantages. Mais il manquait quelque chose entre les deux. Et bien, c'est arrivé avec ces AirPods de troisième génération.
François,
alors, qu'est-ce qu'on va en dire?
Ouais. François, qu'est-ce qu'on peut dire de ces AirPods 3? D'abord, le design évolue.
Ouais, bah, le design reprend le design des AirPods Pro. La seule petite différence, c'est que ce ne sont pas des écouteurs intra-auriculaires. Ça rentrera dans vos oreilles un peu sur le même principe que les AirPods. Ils sont plus courts. On a la spatialisation. Donc ça, c'est plutôt pratique. On n'avait pas sur la deuxième version. La petite nouveauté aussi, qui est plutôt sympa pour les sportifs, même si les sportifs utilisaient déjà des AirPods classique pour courir, ils sont étanches à la transpiration et à la pluie aussi, donc ce qui peut vous servir, surtout si vous habitez sur la Côte d'Azur où il pleut beaucoup et régulièrement. Ah oui, voilà, c'était la petite blague du soir.
Toi qui es en pleine tempête.
Oui, c'est exactement ça. Oui, Eli, tu allais dire, je te laisse la parole.
Petite précision sur les AirPods 3. Ils ont un nouveau détecteur de présence dans l'oreille qui a été nettement amélioré, qu'on retrouvera certainement dans les AirPods Pro de deuxième génération. Donc, ils savent très précisément, parce que le détecteur, c'est par rapport à un contact avec la peau. Donc, quand vous le mettez, quand vous l'enlevez. Et l'autre chose qui, par contre, est une petite déception qu'on n'avait pas vue au départ, c'est qu'ils n'ont pas la fonction de boost audio qui est présente depuis le dernier firmware dans les AirPods Pro, qui permet en fait à des personnes qui sont un peu malentendantes, etc., ou dans certaines conditions d'écoute, de booster la voix par rapport à du bruit ambiant, par rapport à une conversation, ou par rapport à des parasites. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité des AirPods Pro et on ne l'a pas dans les AirPods 3. Bon, mais c'est pas tout le monde ne s'en sert pas, mais voilà. C'était une petite précision.
Ouais, bon, pour moi, la très bonne nouvelle, c'est quand même le spatial audio qui arrive sur les AirPods non pro.
Ouais,
si, si vous avez eu l'occasion d'écouter et d'essayer, vous avez forcément été un peu cueilli par le bénéfice en termes de plaisir d'écoute. Hein, c'est assez fabuleux. Il manque que la réduction active de bruit, finalement.
Oui, oui, mais ça, c'est les pros. Sinon, il n'y a plus de pros.
Ouais, et puis l'autre nouveauté, c'est quand même le nouveau boîtier qui est compatible MagSafe, donc qui du coup s'aimantera logiquement sur votre chargeur MagSafe d'iPhone, si ça passe bien, je l'espère. Et puis on a une autonomie qui est quand même améliorée. Le boîtier permet 30 heures d'écoute, 6 heures d'écoute en une seule charge avec les cotons-tiges. Alors c'est 6 heures d'écoute sur la première année d'utilisation, hein, vous verrez que ça descendra assez vite. Oui. Et vous avez, si vous êtes à court de batterie, si vous rechargez 5 minutes, vous grattez 1 heure d'écoute. Donc c'est quand même plutôt bon aussi de ce côté-là.
Et je crois qu'en parallèle et discrètement, le AirPod a mis à jour le boîtier des AirPods Pro.
C'est exactement ce que je voulais dire, c'est exactement ça. Il y a une nouvelle référence au même prix et sans aucune annonce. Donc on a cherché qu'est-ce que c'était que cette nouvelle référence dans le tarif Apple et on a vu boîtier compatible MagSafe. Donc ça veut dire que les nouveaux AirPods Pro que vous achèterez à partir de je ne sais pas quand seront livrés avec ce nouveau boîtier. Par contre, le boîtier tout seul n'est pas en vente, contrairement à ce qui s'était passé auparavant lorsqu'on était passé des AirPods à des AirPods à chargement induction. Le boîtier était disponible pour, je crois, 80 € ou 89 €, je ne me rappelle plus. C'était quand même pas donné. Mais là, le boîtier n'est pas disponible tout seul. Donc ça veut dire que si vous avez des AirPods Pro, ben, si vous voulez les charger en MagSafe, il faut les changer.
Il faut les changer.
Bon, c'est un peu dommage.
Gilles, juste ton sentiment sur ces nouveaux AirPods.
Apple décline comme il avait su le faire avec le iPod. On s'adapte, on donne une version d'entrée de gamme plus performante, avec un tout petit peu plus de caractéristiques qui faisaient envie sur les versions supérieures. Et il reste dans la course et on change un petit peu le design. ce qui fait qu'on va se démarquer par rapport à toute la camelote qui avait été proposée et qu'on voyait partout. On n'est plus
sur les contrefaçons, tu veux dire.
Oui, on peut dire ça, oui. Et on le voit d'ailleurs dans le petit clip de présentation de ces nouveaux HomePod, le clin d'œil et la référence aux écouteurs de l'iPod était clairement voulu.
Alors c'est plus qu'un petit clip, je pense que c'est la pub. Hein.
Ouais. Oui, c'est ce que je veux dire. On n'est pas dans les trucs qui déroulent pendant une bonne dizaine de minutes, comme Apple savait les faire à la grande époque.
Ça donne quoi, Eli, en termes de tarifs hein?
199.
Alors déjà, la petite chose, c'est qu'on l'a dit, les AirPods de deuxième génération restent au catalogue en entrée de gamme. Donc déjà, ça c'est plutôt fin de la part d'Apple, même si on a tendance à les trouver à vraiment pas cher sur Amazon, hein, c'est ce que je disais encore lundi pendant la keynote. Ils sont affichés à 149€, donc les AirPods de deuxième génération. Si vous avez envie d'avoir le dernier modèle, et honnêtement, on vous conseillera de prendre le dernier modèle, hein, là, vous allez avoir un petit supplément de 50€. Ils sont facturés 199€. Et les AirPods Pro restent au catalogue au même prix que précédemment. Comme le disait Ellie, la seule petite différence, c'est que vous avez le fameux nouveau boîtier MagSafe. Donc, je le rappelle, les AirPods Pro sont facturés 279€. Donc, il faut rajouter 80€ pour avoir la réduction de bruit. Et si vous souhaitez des écouteurs, du coup, plutôt intra-auriculaires comme les écouteurs des AirPods Pro. Donc, c'est une gamme qui est plutôt, plutôt cohérente, je trouve, en fonction de vos envies et du budget que vous avez envie de mettre dedans.
Voilà, donc les AirPods 2 moins chers, 50€ moins chers, mais les AirPods 3, 20€ de plus, on va dire.
Oui,
hein,
c'est ça.
Modèle qui
absolument.
Remplace.
Absolument. Ben oui.
Merci beaucoup pour ces précisions sur ces annonces dans le domaine de la musique et du son. On va passer aux mises à jour de la semaine avec un gros sujet pour lundi. Les MacBook Pro arrivent mardi pour les plus chanceux, mais dès lundi, vous pourrez avoir l'impression d'avoir un nouveau Mac.
Et oui, Monterey, c'est pour lundi. Nouveau Mac. Alors, Ellie nous fait un petit signe en mode petite mise à jour. Ouais, il y a quelques petites nouveautés sympas. Par contre, c'est vrai que moi, il y a une nouveauté que j'avais envie de tester qui ne sera hélas pas disponible pour l'instant. Bah oui, c'est triste. C'est Universal Control qui vous permettra de pouvoir n'avoir qu'un seul ordinateur alors que vous en avez plusieurs. Et c'est pour moi la nouveauté qu'on attend, mais qui sera pour plus tard, hélas.
Bah, en fait, ça permet, lorsqu'on a par exemple un Mac, un iPad et peut-être un portable aussi, d'utiliser un clavier ou une souris qui va pouvoir être reconnue d'un ordinateur à l'autre. Donc c'est assez bluffant, ça reste à voir en pratique si on sait là où on est, comment on est, mais quand ils ont fait la démo, on était tous bluffés.
François, tu dis que c'est une petite mise à jour montrée. Tu le penses, c'est le fond de ta pensée, tu le penses vraiment ?
Ouais, je pense qu'on avait vraiment eu une grosse mise à jour avec Big Sur l'année dernière. Les changements d'interface, il y a quand même beaucoup, beaucoup de nouveautés. Là, ça ressemble plus à une mise à jour mineure. Moi, je repense toujours à Léopard et Snow Léopard, Lion et Mountain Lion. Je pense qu'on est à peu près dans le même ordre d'idées. C'est des petits perfectionnements par-ci, par-là, mais ce ne sera pas la mise à jour révolutionnaire. Par contre, ce qui est aussi un peu plus nouveau, c'est qu'on a des fonctionnalités qui vont être réservées au Mac M1, au Mac à processeur Apple Silicon. Ça, c'est nouveau, et on voit qu'Apple, petit à petit, va commencer à développer ces fonctionnalités-là. Et c'est dommage pour les gens qui ont l'Intel, et ça incite encore plus. C'est vrai que nous, là, on va être amené à recommander encore un ordinateur au boulot, et notre fournisseur nous fait des grosses promos sur un iMac Intel, mais moi, j'ai dit non, on prend pas d'iMac Intel, parce que pour moi, ça, c'est pas le moment, quoi. Clairement, faut rester sur du M1.
En fait, j'étais en train de relire les nouveautés, justement, pour essayer de m'auto-convaincre qu'il y avait des nouveautés, puisque moi, j'avais la même réaction que François, en ayant utilisé la bêta aujourd'hui même, toute la journée. J'avais Big Sur sur mon portable, j'avais Monterey sur une machine à côté, et je me disais, mais qu'est-ce qui a changé ? J'ai pas trouvé dans mon utilisation quotidienne un truc qui a changé. C'est pour ça que je disais petite mise à jour. Et donc, du coup, je suis retourné à l'instant, là, sur le site Apple. et en disant qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Monterey. Alors, évidemment, SharePlay, mais SharePlay n'est pas actif au lancement, à moins qu'on ait une surprise. Donc, le regarder ensemble, écouter ensemble, qu'on avait vu, il y avait du partage d'écran FaceTime. Donc, on peut non seulement avoir cette nouvelle façon de se parler à plusieurs, mais il y avait la possibilité de partager un écran, chose qu'on sait faire avec Zoom et Teams et d'autres choses. Il parle d'audio spatial pour les Mac, donc à partir de Monterey. Donc, les invitations pour FaceTime qui peuvent être faites pour des produits non Apple, c'est-à-dire des PC ou des téléphones Android. Voilà les petites choses que j'ai trouvées. Et puis voilà quoi. Donc c'est bien, c'est mieux, mais c'est pas révolutionnaire.
Ouais. Oui, je voulais résumer votre pensée. Monterey, vous comprenez pas pourquoi on en fait tout un fromage.
Oui. Merci Gilles pour cette petite blagounette gastronomique. Quel conseil on peut donner à celles et ceux qui nous écoutent quand lundi ils verront apparaître une notification leur disant que macOS Monterey est disponible ?
Sauvegarder avant tout. On ne sait jamais. Et après, faites-la. Oui. Et après, faites-la. Moi, je n'ai, pourtant c'est des bêtas que j'utilise, je n'ai pas eu de surprise en mise à jour. Il n'y a pas eu de plantage ou d'appli qui n'ait pas fonctionné ou de corruption de ma base de photos, etc. Donc, mais sauvegarde quand même.
Je puis soit sauvegarder, faites la mise à jour, parce que c'est souvent lors des mises à jour majeures qu'il peut y avoir des plantes de système et il ne faut pas venir pleurer après, il faut faire la sauvegarde avant.
Ouais. On n'attend pas avant de faire la mise à jour, on n'attend pas la première mise à jour mineure, la 12.0.1 ou la suivante.
En tout cas, nos conseils depuis des années, depuis qu'iWeek existe, si vous n'êtes pas super impatient et un geek absolu, attendez 24-48 heures. Parce que s'il y a des gros bugs dans la release finale, on le saura dans les 24-48 heures. Donc au moins 24. Moi, je ne me précipiterai pas lundi pour la faire sur une machine de production, encore une fois. Une machine de test, oui, sans problème, mais j'attendrai parce qu'on ne sait jamais. Même iOS 15, on a eu droit au petit bug de démarrage et pourtant, on s'attendait à une release stable. Et ben, ça ne l'a pas été. Il y a eu 15.01, 15.02 en attendant la 15.1. Donc celle-ci, c'est la première. Je pense qu'elle est stable, mais ne soyez pas kamikaze.
Et puis, vous avez toujours le risque de l'incompatibilité de certains de vos logiciels avec une nouvelle version du système d'exploitation.
Absolument. Il y a une petite mise à jour, au passage, si je peux, de Parallels, qui est passé en 17.1, logiciel de virtualisation dont on a parlé plein de fois, et qui apporte justement la compatibilité avec Monterey, donc qu'on attendait, donc c'est sorti il y a 24-48 heures, juste parce que Monterey arrive, et ça apporte aussi une compatibilité sur M1 avec Windows 11, donc version ARM, qu'on ne pouvait pas télécharger sur machine, parce qu'il y avait des petits certainement soucis de compatibilité, et parallèle, ça fait en sorte qu'on puisse, sur une machine M1, installer maintenant Windows 11, pour ceux qui le souhaitent.
Une petite rumeur au programme cette semaine, elle concerne l'iMac grand écran, celui dont on parle ici et dans i5 depuis des mois, en tout cas depuis l'arrivée de l'iMac M1 24 pouces. Cet iMac à grand écran serait pour le début de l'année prochaine, mais bon, ne rêvez pas trop d'un très grand iMac, hein, parce que la taille d'écran évoquée par Ross Young, qui est spécialiste des écrans justement, c'est du 27 pouces, autrement dit la taille de l'iMac Intel, la taille du grand iMac depuis des années. Cet écran serait ProMotion, donc ce serait quand même une amélioration, mais on serait très loin d'un très grand iMac 30, 32 pouces, voire plus. Je sais que notamment Jean-Christophe en rêve, moi aussi. 27 pouces, ce serait une déception, non, Élie ?
Oui, je suis désolé pour François, je vois qu'il s'effondre devant une telle information. Mais ça me paraît pas impossible. Un iMac 32, quand on voit l'espace qu'il y a dans un iMac 24, je ne sais pas avec quoi ils auraient comblé le vide. Hein. Donc, ils auraient beau mettre 8 haut-parleurs.
30,
Apple a déjà fait du 30 pouces. J'en ai un sur mon bureau, justement. Mais 27 pouces, si c'est confirmé, ça a le mérite de rester dans 24, 27. Maintenant, 24-30, moi, personnellement, je préférerais. Hein, mais pour l'instant, les grands liqueurs, ou en tout cas liqueurs professionnels comme Marc Gurman ou comme Ming-Chu Kuo, n'ont pas encore donné leur avis. Hein. Alors, celui qui parle, c'est un spécialiste des écrans. Et en plus, il est PDG d'une société qui, je crois, fournit des écrans. SCC, je ne sais pas. Mais bon,
oui,
en tout cas,
ça.
C'est
une boîte de consultants. Donc, c'est sa boîte de consultants sur les écrans.
Mais sur les écrans, c'est ça. Mais, donc, c'est vraiment un domaine qu'il connaît.
Ouais, ouais.
Donc, je pense qu'il sait de quoi il parle. Mais encore une fois, c'est des rumeurs. Hein. Donc, on ne sait pas.
Il y a deux choses qui ne sont pas des rumeurs. C'est que c'est extrêmement difficile de trouver des dalles sur le marché, de les faire fabriquer. Les délais de disponibilité sur les grandes dalles s'allongent démesurément. Les fabricants de grands écrans ont de plus en plus de difficultés à fournir même les commandes qui ont été passées, à honorer leurs commandes. Et si c'est vraiment du promotion avec du mini LED sur une surface pareille, s'ils veulent tenir les prix, on en parlait tout à l'heure à propos du MacBook Pro, s'ils veulent tenir les prix, des prix raisonnables sur des grandes dalles, ça me semble logique qu'ils se, dans un premier temps, hein, et pour un modèle peut-être comme le modèle Pro sur le MacBook Pro, qu'ils s'en tiennent à du 27 pouces, quitte à passer à du 30 ou du 32 pour des modèles extrêmement spécialisés de type station de travail, comme ils peuvent le proposer sur le modèle Max.
Je crois pas. Je ne suis pas d'accord avec toi, Gilles. Je pense que soit il y aura du 27, soit il y aura du 30 ou du 32, mais Apple ne va pas changer une gamme un an après. C'est pas de taille, hein, de processeur, oui, certainement, mais les designs ne sont pas si brefs. S'ils disent « ça sera du 27 », c'est une décision qui durera quelques années. C'est peut-être par rapport à la pénurie de composants, peut-être par rapport au coût de fabrication. Tout ça, je suis totalement d'accord. Mais s'ils adoptent une taille, ça sera cette taille-là.
On espérait un nouveau Mac Mini lors de la keynote de lundi soir. Pas de nouveau Mac Mini. Et comment est-ce que vous analysez cette non-annonce finalement, Eli, Gilles ?
Parce qu'il n'y a pas l'écran.
François.
Parce qu'il n'y a pas l'écran. Et on attend l'écran.
Le Mac Mini.
Non, mais il faut un écran pour un Mac Mini.
Il faut un nouvel écran, oui.
François.
Ouais, moi, à mon avis, ils attendent. Ce sera peut-être avec le Mac Pro où le risque était de sortir, de tuer le nouveau Mac Pro avant qu'il soit sorti. C'est peut-être ça aussi, parce que finalement, si Apple nous sort un Mac Mini avec le processeur M1 Max ou M1 Pro, bah finalement, ça suffirait peut-être à pas mal de professionnels. Ou alors ils attendent pour sortir ça en même temps que le Mac Pro. Honnêtement, c'est étrange. Ouais, on s'y attendait vraiment, mais ça arrivera, à mon avis, plus tard. Peut-être avec un nouveau MacBook Air, pourquoi pas.
Ah, possible.
Celui qu'on annonce pour l'année prochaine, hein. Pas pour tout de suite.
Et qui aurait apparemment MagSafe, du coup. Parce qu'il y a eu une rumeur cet après-midi en disant « Les nouveaux MacBook Air de 2022 auront MagSafe. » Et n'auront
logique.
Plus le design... vous savez comment ça s'appelle ce design pointu quand les MacBook depuis leur origine,
enveloppe craft,
ouais, qui rentrent dans une enveloppe, et donc ils reprendraient un design plus sage plus traditionnel, et ressemblerait effectivement un peu à leur grand frère mais avec plus de couleurs, dit la rumeur.
Une dernière question pour clore le sujet de cette keynote de lundi soir. On est le 21 octobre, on a vécu deux keynotes depuis la rentrée. La gamme iPhone 13 et puis cette keynote dédiée au MacBook Pro et un petit peu à la musique. Qu'est-ce qui se passe selon vous d'ici la fin de l'année ?
Rien. Rien de temps. Plus de keynote.
François.
Nada. Nada, je pense qu'on se retrouve, on se retrouvera au mois de mars.
On a connu 3 keynotes à l'automne dernier.
On n'est pas à l'abri d'une surprise quand même, sur du bureau. Pas tant pour l'iMac, mais pour des machines professionnelles.
Non. Non, je ne crois pas, Gilles. Ça, c'est vraiment
rien.
Les dernières à être annoncées. Les Mac Pro seront les dernières machines. Ça sera la fin de la transition dont Tim Cook a dit qu'on était à la moitié. Donc, ils ne vont pas sortir d'ici. Je veux dire, il y aurait 5000 rumeurs s'il devait y avoir un Mac Pro avant Noël. Hein. Honnêtement, je ne veux pas vous décevoir, hein, mais franchement, je n'y crois pas. Et on aurait pu se dire, est-ce qu'il y aura une keynote pour parler de réalité augmentée, qui est notre rêve à tous.
Non.
Mais ce
c'était
que nous a
question.
Dit, pour ceux qui se rappellent... Oui, mais c'est pour ça que j'y venais, j'avais bien compris. Ce que nous a dit Mark Gurman, pour ceux qui ont écouté l'intégralité de l'interview, cette partie était très intéressante. Lui, il ne voit pas les lunettes de réalité augmentée Apple en 2022, ce qui est une énorme déception pour moi. Il la voit dans plusieurs années. Alors, la réalité virtuelle pourrait arriver, mais la réalité virtuelle s'adresse à un public extrêmement précis. Ce serait des lunettes en plus, enfin un casque plutôt, très cher, et donc vraiment réservé à des concepteurs de 3D, à des industries automobiles, des choses comme ça, si la qualité est là.
Hein.
Il parlait de l'an prochain. Mais par contre, pour les lunettes, il disait au moins 2025, ce qui serait une énorme déception. Donc, ça ne justifierait pas une keynote qui s'adresse à des produits grand public qui vont être vendus en masse, à des développeurs qui vont faire des applications par dizaines de milliers. La réalité virtuelle, à part Facebook, qui croit beaucoup, et je vais en parler tout à l'heure, ne justifie pas une keynote chez Apple à ce stade.
Tant qu'il y a des rumeurs de report de la fabrication de ce casque à la fin 2022.
Le dîner d'Eli, le moment pour nous de passer à table. Avec toi au fourneau, Eli, quelle est l'entrée du jour?
Attends, il faut que je mette ma serviette.
Bah, tu peux, si tu veux. On va commencer par une entrée légère et rigolote qui a vraiment pris le net par surprise lors de la keynote. Et je vous ai préparé donc en entrée une chiffonnade d'Apple et non pas une chiffonnade de jambon cru.
Ou une chiffonnette. Chiffonnette.
Oui, une chiffonnade pour une chiffonnette. Parce que s'il y a un produit qui a marqué les gens pendant la keynote, c'est cette merveilleuse chiffonnette Apple à 25€ quand même. Qui s'est emparé du net. Tout le monde en a parlé. Hein, donc,
mais c'est tellement
plus...
ridicule.
Ah, mais oui, c'est ridicule. Le prix
est
ridicule.
Est-ce
le fait qu'ils ne la fournissent pas.
Ben ouais.
C'est 1% du prix des machines.
Non, mais c'est une honte. Non, mais t'imagines commander un Mac à 5000€ et ne même pas avoir le chiffon pour le nettoyer. Sérieusement. Non, mais moi j'ai honte. Dans ces moments-là, j'ai honte, honnêtement.
Je suis d'accord avec toi, d'autant plus que les deux machines Apple, donc je parle des écrans XDR et de l'iMac nanotexturé, donc les deux ont la même chiffonnette. C'est pour ça que je peux vous la montrer, j'en ai une sur mon bureau. L'autre, j'ai dû la mettre dans le coffre, parce que si je la confie à mes commerciaux, au bout de 2 jours, il n'y a plus de chiffonnette, parce qu'ils vont l'utiliser pour nettoyer les tables. Bon, bref, je t'explique. Mais bon, je l'ai vue de près, elle est magnifique, elle est blanche, elle est tout ce que tu veux. 25€ quand même.
Mais elle vaut 25 balles.
Ouais, la preuve que les gens sentent qu'ils en ont besoin pour le nouveau MacBook Pro, pour lequel effectivement ils ont dépensé des fortunes, c'est que maintenant les délais, c'est fin novembre.
Novembre. C'est même pire que ça.
Ah, bah, tu vois. Et je me suis aperçu avec horreur que nous-mêmes, on a été pris au piège et qu'on n'en a pas commandé, parce que chez moi, aux achats, quand ils ont vu une chiffonnette à 25€, ils ont dit « Non, personne ne va acheter ça !» Et ils n'en ont pas commandé. Et du coup, je vais les supplier en leur disant « Non, mais tous les MacBook Pro qu'on va vendre, comment est-ce qu'on va les nettoyer ? Comment est-ce que les clients vont les nettoyer sans ça ?» Donc, voilà.
c'est 1% du prix de la machine d'entrée de gamme. Mais il y a une tradition d'Apple.
Quelque part, moi, ça m'est égal, que ce soit 1%, 0,5% ou 3%. Je trouve que
symboliquement... Non, je veux dire, c'est ridicule.
Symboliquement, c'est terrible, quoi.
Mais il y a une grande tradition. Rappelle-toi les chaussettes de l'iPod ou les roulettes du dernier Mac Pro.
Enfin, y a ouais, mais les chaussettes n'étaient pas indispensables pour se servir de l'iPod, alors que le...
Les roulettes non plus.
T'achètes un MacBook Pro à ce prix-là. Enfin, je sais pas. Même moi, j'ai le souvenir aussi des iMac qui étaient livrés avec un petit chiffon.
Chiffonnette.
Ouais. C'est le béaba du service. Je sais pas. Enfin bon. Ça me met en colère. Il y a peu de choses qui me mettent en colère, mais un truc comme ça, je trouve ça tellement mesquin.
Après, il y a des choses qu'on ne sait pas. On verra quand on aura les boîtes. Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait la chiffonnette, mais qu'il n'y a pas la place pour la mettre dans leur packaging calculé au millimètre. Mais dans lequel cas, ils devraient presque, si les gens râlent suffisamment, presque fournir, un bon d'achat, un truc en disant enregistrez votre machine, on vous enverra une chiffonnette. Je ne sais pas. Il faut qu'ils fassent quelque chose parce que c'est ridicule.
Ouais. Ce que tu disais, François, dans i5, hier, mercredi, c'est que finalement, Apple, qui a sorti des MacBook Pro magnifiques, hein, on va pas dire le contraire, finalement, c'est tirer une balle dans le pied au même moment en secouant cette chiffonnette là, sur l'Apple Store à 25 balles, quoi.
Ouais, non, moi, c'est vrai que j'ai eu des échos, j'ai eu des SMS d'amis me disant « Ah, t'as vu la chiffonnette et tout ?» Et au final, les gens retiennent quoi ? Retiennent la chiffonnette à 25 balles au lieu des machines qui sont super puissantes et qui tuent Intel et qui tuent le game, quoi. Et c'est vraiment pas malin de la part d'Apple. Mais c'est le Apple qu'on connaît, c'est, ils sont capables de nous sortir des produits énormes et puis à côté de faire une erreur de com. Enfin, c'est ridicule, vraiment.
Ouais, ça rappelle les roues des Mac Pro aussi, hein.
Exactement.
Mais bon, il y a un côté très très anecdotique autour de la chiffonnette, donc elle devrait être fournie. Après qu'on puisse en racheter une, bon, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort sur le prix, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais qu'elle soit pas fournie, c'est une erreur, je trouve. C'est même pas de la courtoisie, ou du savoir-vivre. Je sais pas comment qualifier ça. Ça me
gagne des millions pour des pigeons.
Gagne petit, ouais, c'est ça. Gagne petit.
Tellement.
Bon, je pense qu'il nous faut un bon plat de résistance là pour nous réconforter.
Ouais, bon, bah pour vous calmer, je vous ai trouvé un petit truc. Ça va faire l'unanimité. Parce que figurez-vous que nos amis de 12 South, qu'on adore leurs produits, hein, tout ce qu'ils font, ils viennent de sortir aujourd'hui un produit qui est juste incroyable. Je vous le décris, hein, parce que si vous ne l'avez pas vu, j'ai mis le lien pour mes petits camarades pour qu'ils puissent le voir en vrai. Eh bien, ils ont sorti un système de charge, donc QI, mais là où c'est très intelligent, c'est que c'est en verre et qu'on peut glisser une photo au format traditionnel. Donc ça veut dire que quand vous le posez sur votre table, ben vous avez une photo de votre épouse, de vos enfants, etc., etc. On ne voit rien d'autre. Mais quand vous posez un iPhone ou un AirPod, eh bien il va se charger. C'est-à-dire que le temps de la charge... Ben, on ne voit pas la photo, mais on peut toujours la mettre sur l'appareil si vous le souhaitez. Mais quand vous enlevez votre appareil, le reste de la journée, plutôt que d'avoir un truc disgracieux avec une spirale ou le rond d'un MagSafe, etc., ce qui n'est pas forcément très beau dans votre salon ou sur votre bureau, ben vous avez une photo. Et je trouve l'idée, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Ça coûte $59.99 pour un chargeur XI, c'est le prix. Bon, le chargeur 20 watts USB-C n'est pas fourni, mais on suppose que vous l'avez avec votre iPhone ou votre iPad mini ou que sais-je. Donc, mais voilà, donc il y a une entrée USB-C et c'est tout. C'est, je trouve, très esthétique. Et franchement, vous verrez les photos où on vous mettra un lien. Bon, il fallait y penser, mais je trouve qu'ils sont très malins d'avoir fait ça.
Ouais, donc c'est le chargeur sans fil PowerPeak Mode, MOD. De chez 12 South à effectivement un tout petit peu moins de $60. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Bon, je suis pas forcément fan de la photo du chien, mais avec un beau paysage ou tout, c'est plutôt sympa.
Je t'enverrai une photo de moi si tu veux.
Ah.
Ah. Merci François, je le mettrai près de mon lit. Le dessert.
C'est mignon.
Alors écoute, un dessert en forme de point d'interrogation, mais en même temps un dessert léger. Parce qu'il y a quelques jours, on a vu dans les journaux télé hein, du soir en disant Facebook va changer de nom. J'ai dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et Facebook démarre une nouvelle étape de sa croissance et de son activité en investissant dans le métaverse. Et donc, ils prennent ça très, très au sérieux. Métaverse, à ne pas confondre avec l'avant-dernier film de Spider-Man en dessin animé qui s'appelait Spider-Man dans le métaverse, hein, ou le prochain Marvel qui va sortir dans quelques mois qui s'appelle La folie du métaverse, hein, donc, ou du multiverse plutôt. Je ne sais pas comment ils vont le traduire en France. Donc non. Facebook a décidé d'investir partout dans le monde, et en France, ça se traduit par 10 000 embauches. Donc ils ne prennent pas ça à la plaisanterie, pour promouvoir et gérer un univers virtuel qui serait basé sur les études faites par sa filiale et sa division Oculus, donc en réalité virtuelle, puisqu'on a besoin d'un casque et deux éléments qu'on met sur les mains pour pouvoir faire des gestes. Et Facebook dit que le futur des interactions en entreprise, le futur des réseaux sociaux, le futur de la communication, c'est dans ce métaverse dans lequel il croit complètement. Et donc, on n'a pas encore vu de vraiment beaucoup de détails, mais s'ils en sont au point de changer le nom de Facebook, qui est iconique dans la planète entière, je ne sais pas comment ils vont l'appeler. Ils n'ont pas donné le nouveau nom, hein, mais est-ce que ça va s'appeler Metaverse ? Bon, je ne sais pas. Mais peut-être ça leur permet d'échapper à une certaine mauvaise presse qu'a Facebook aujourd'hui. Ils se revirginisent en investissant un nouvel univers. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on va être prisonnier de cet univers ? Alors, j'ai vu, moi, une démonstration où Zuckerberg et ses plus proches collaborateurs se parlent dans une réalité virtuelle. En fait, on voit que leur visage un peu genre emoji Apple, enfin mimoji Apple. Ils n'ont pas de corps, ils ont une sorte de... comme si c'était un fantôme, ça se finit par une sorte de je sais pas, un petit nuage aéré. Et donc, ils parlent autour d'une table, ils discutent, ils partagent des écrans, etc. Ils disent que la réunion est géniale parce que, du coup, vous pouvez être chez vous, mal coiffé, en pyjama, et participer à une réunion où, en fait, on voit votre avatar. Bon, après, si on étend le concept, on pourrait se dire... ok, mais dans cet univers virtuel qui ressemblerait un tout petit peu à Second Life, hein, parce que pour ceux qui ont connu ce logiciel qui a été à un moment donné très utilisé et qui est tombé un peu dans l'oubli, je pense qu'il existe encore, hein, mais qui est tombé un peu dans l'oubli, on devait utiliser de la monnaie virtuelle pour acheter des choses dans cet univers. Du coup, vous savez que Facebook a une monnaie virtuelle, hein, basée un peu sur de la crypto-monnaie, dont ils parlent beaucoup. Donc, est-ce qu'ils essayent de capturer encore plus l'utilisateur qui serait... dans cet univers totalement virtuel où il paierait avec de la monnaie Facebook, il communiquerait avec des outils Facebook, il verrait s'afficher des publicités Facebook, etc. Je ne sais pas, je ne comprends pas, et peut-être que quelqu'un m'éclairera ou peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, qu'est-ce que c'est que le métaverse de Facebook ? Voilà, ça c'est ben, une bonne c'est question.
Un univers pour choper encore plus de données comportementales, même plus des données personnelles, et si tu essaies de résilier ton compte, tu es poursuivi par des grosses boules blanches.
En tout cas, voilà, je me suis interrogé, parce que pour que les journaux TF1 en parlent dans son journal de 20h, etc., je me dis quand même, ça doit être gros, mais je ne comprends pas. Donc je vais chercher à comprendre, puisque je connais des gens qui sont dans ce domaine-là, et on en reparlera. Mais si vous-même, vous avez des informations, si vous avez des idées, on pourra échanger là-dessus, ça sera intéressant, parce que quand une boîte qui a 3 milliards d'utilisateurs décide de changer son nom, c'est pas anodin. Quand ils investissent pour embaucher 10 000 personnes en France, je ne sais pas combien ils vont en embaucher aux États-Unis ou en Angleterre ou en Inde ou en Chine, mais ça veut dire quand même qu'ils prennent un virage énorme pour la société, et donc c'est pas neutre. Donc il faut qu'on surveille ça et qu'on essaye de comprendre.
Merci Eli pour ce... Oui, Gilles.
Quand une boîte de 3 milliards d'utilisateurs cherche à changer son nom, c'est qu'il sent la laine chaude du judiciaire ou du législateur ou du régulateur sur sa nuque.
Mais très tu bonne as totalement conclusion, raison parce que... Gilles. Ouais, parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on peut poursuivre une boîte dans un univers parallèle ?
Très bonne conclusion, les amis. On arrive à la fin de cet épisode 61. Merci d'avoir été au rendez-vous d'iWeek. C'est la fin d'une semaine à nouveau bien chargée pour nous. On se retrouve demain matin, vendredi, pour le dernier numéro d'i5 de la semaine. Et puis nous serons de retour jeudi prochain avec l'épisode 62 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Nous serons le 28 octobre. Salut Eli.
Bonsoir, à la semaine prochaine avec, j'espère, des nouveaux Mac à vous montrer.
J'espère aussi. Salut François.
Salut, moi j'aurais théoriquement un nouveau Mac à vous montrer.
Et salut Gilles.
Salut, moi j'espère avoir de nouvelles idées partagées. À nous. Mais j'aurais été faire un tour chez la PR du coin.
Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous rappelle le compte Twitter d'iWeek @iWeekNews pour nous suivre et le hashtag iWeekLSA pour échanger avec nous tout au long de la semaine. Si vous aimez iWeek, essayez i5. Votre dose Apple quotidienne sur Apple Podcast, 5 minutes par jour, 5 jours par semaine, 3,99€, c'est le prix de l'abonnement par mois, sans engagement et avec 3 jours d'essai gratuit. Essayez i5, vous allez voir, on ne peut plus s'en passer quand on y a goûté. Et puis Apple Podcast bien sûr et toutes les plateformes de podcast pour vous abonner à iWeek, la semaine Apple, c'est gratuit, profitez-en. À très très vite, passez une très bonne fin de semaine, un bon week-end. Salut à tous, bye bye les amis.
Bye bye.
Salut.
Bye bye.